oui.
Conférencier.
Alors, ce soir, nous recevons Pierre Jovat. Pierre Jovat, journaliste à La Vie, qui vient nous parler du sujet « Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques ?» Tu as écrit un livre sur ce sujet. Et voilà, ton expérience à travers ton parcours de foi t'a conduit à fréquenter des évangéliques. Et voilà. Merci de venir nous parler de ce sujet. Ah, merci Létala, merci de me recevoir à votre table deux fois, ici à la chapelle et ici dans cette salle. J'étais déjà venu dans cette aumônerie il y a quelques années, mais jamais pour une messe du jeudi soir et jamais avec l'aumônerie d'Étala. Donc merci encore de m'accueillir. Je ne connais pas grand-chose de votre école. Moi, j'ai fait Sciences Po, pas très loin d'ici. Et je sais juste qu'à Sciences Po, on fait deux parties, deux sous-parties. Vous faites trois parties, si j'ai bien compris. Voilà. Et vous, mais vous m'apprendrez ce que sont vos caractéristiques. Alors, comme l'a dit Clément, je suis journaliste à La Vie. Je vous ai rapporté le journal de la semaine. J'en ai que deux exemplaires, mais j'en fais cadeau à l'aumônerie Tala. Et vous saurez tout sur la lutte héroïque des députés qui ont failli faire renverser le gouvernement. Et donc, à La Vie, je travaille, j'écris sur un peu les sujets internationaux, de politique française et aussi d'actualité religieuse. Et La Vie est un journal catholique, mais ouvert à toutes les autres églises du christianisme. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que, comme Clément a pu le suggérer, dans mon parcours de foi, les évangéliques ont joué un rôle certain, et je vais vous expliquer. Donc moi, je viens d'une famille catholique, comme beaucoup d'entre vous. J'ai reçu une éducation catholique solide. Et puis, dans les études, je vous fais très rapidement, mais la foi d'enfant, la foi d'adolescent, c'est un peu confronté au réel, c'est un peu confronté aux questions qu'on peut se poser à cet âge-là. Et ma foi d'adulte, elle a été accouchée par des rencontres, par des lectures, par des événements dans ma vie, et les évangéliques ont joué un grand rôle. Ils m'ont montré finalement que on peut recevoir une tradition, on peut recevoir un héritage. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça aide à se positionner et on reçoit beaucoup. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision personnelle de suivre le Christ. Et ça, les évangéliques me l'ont appris. Et je vais vous expliquer que c'est une grande caractéristique de ce courant du christianisme. Et donc, effectivement, j'ai écrit ce livre, « Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques ». C'est un titre doublement provocateur pour les catholiques, mais encore plus pour les évangéliques. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, puisqu'on est chez l'Étala, j'ai fait un plan en trois parties. D'abord, un petit rappel sur qui sont les évangéliques. Ensuite, les inspirations qu'on peut retirer d'eux. Et puis, enfin, quelques hypothèses que je formule pour une fraternité fructueuse, féconde, avec les évangéliques en tant que catholique. Voilà, je mets ma montre pour ne pas déborder sur le temps imparti. Alors, qui sont les évangéliques? Je sais que vous avez eu une conférence du pasteur Alain Joly, qui est pasteur luthérien, qui vous a expliqué l'histoire de la réforme. Donc je ne vais pas vous refaire l'exposé sur la réforme protestante. Mais peut-être j'aimerais insister sur un point fondamental de la réforme, et qui existait même, qui précède Martin Luther. C'est ce livre, « L'imitation de Jésus-Christ », que vous connaissez peut-être. C'est un livre de la mystique médiévale qui a été écrit à la fin du XIVe, début du XVe siècle par un moine néerlandais, Thomas à Kempis, ou Thomas van Kempis. Et c'était un moine augustin, le même ordre que Martin Luther. Et j'insiste sur son appartenance à l'ordre des augustins, parce que dans la théologie catholique, on sait qu'il y a une filiation directe entre saint Paul et saint Augustin. Les deux disent que chrétiens, nous sommes pécheurs, en fait, chrétiens ou non, nous sommes pécheurs, par nos propres forces, nous n'y arrivons pas, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et nous avons besoin de la grâce salvatrice de Dieu, de Jésus-Christ mort à la croix, pour nous laver du péché. Alors vous me direz, ça c'est le fondement de la doctrine chrétienne, mais saint Paul et saint Augustin, après lui, insistent énormément là-dessus, sur notre qualité de pécheur, notre condition de pécheur, et sur la grâce gratuite de Dieu qui vient nous sauver. Et ce petit livre, L'imitation de Jésus-Christ, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. C'est un très très bon livre. Et on est en plein dedans. On est dans le cœur de ce que Paul et Augustin ont pu souligner. Je vous cite juste un petit passage. Me voici. Je viens à toi parce que tu m'as appelé du plus profond de ton cœur. Tes larmes et la soif de ton âme humiliée m'ont ému et ramené vers toi. J'ai invoqué ton nom, Seigneur, je t'ai désiré, prêt à tout abandonner pour toi. Mais c'est toi le premier qui m'a incité à te chercher. Donc là, on est vraiment dans un mouvement où c'est le Christ qui vient vers nous. Sois donc béni d'avoir témoigné de cette bienveillance envers ton serviteur, selon ton infinie miséricorde. Que peut-il te dire encore et quel recours lui reste-t-il, sinon celui de s'humilier profondément en ta présence, se souvenant toujours de son néant et de son iniquité ? Il n'est rien de semblable à toi dans tout ce que le ciel et la terre renferment de plus merveilleux. Tes œuvres sont parfaites. Donc il cite un psaume. Tes jugements sont vrais. Il cite Isaïe. Ta providence gouverne l'univers. Sois donc glorifié, ô sagesse du Père. Que mon âme, ma bouche et toutes les créatures ensemble te louent et te bénissent à jamais. Ça, c'est vraiment le béaba du christianisme, on pourrait dire, mais plus particulièrement de la réforme protestante, qui a été un mouvement inouï, qui a été aux confluences de plein d'évolutions culturelles, sociales, technologiques. Sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu de réforme protestante. Sans le nationalisme des princes allemands non plus, il n'y aurait pas eu de réforme protestante. Mais a jailli du cœur de Luther et d'autres réformateurs cette espèce de conscience d'être pécheur et la conscience que Dieu, dans son amour, veut nous sauver et il a déjà tout accompli à la croix. Et finalement, on n'a plus qu'à l'adorer. Malheureusement, comme le Père l'a dit, les réformateurs ont un peu imité Moïse, dans le sens où ils voulaient faire table rase et tout reconstruire ensuite. Mais je voudrais vraiment insister sur ce bienfait de la réforme protestante qui a été voilà, cette intuition, cette redécouverte de l'intuition profonde de la grâce. Et on le retrouve dans les cinq solas, vous êtes peut-être familier de ça, les cinq mots d'ordre de la réforme. Je les dis vite, hein, mais donc sola gratia, la grâce seule, sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, solus Christus, le Christ seul, et soli deo gloria, à Dieu seul la gloire. Et alors, voilà, cette intuition, l'imitation de Jésus-Christ, je vous redis pourquoi je l'ai citée, c'est parce qu'en fait, cette mystique qui sort de ce bouquin a irrigué la région du Rhin, donc des Pays-Bas où se trouvait Thomas à Kempis jusqu'en Suisse, et sur tout l'ouest de l'Allemagne, et ensuite tout le reste de l'Allemagne. Et c'est là qu'a été vraiment le berceau du protestantisme, et donc de l'évangélisme. Puisque l'évangélisme, c'est un courant du protestantisme, mais c'est aussi une sensibilité. C'est autant une doctrine qu'une sensibilité spirituelle. Formellement, les évangéliques naissent au XVIe siècle, en même temps que les luthériens, comme le pasteur Joly, et en même temps que les calvinistes, comme Jean Calvin, à la suite de Jean Calvin. Ils naissent donc à Zurich au XVIe siècle, vraiment au tout début de la Réforme. Et ils se distinguent par le fait qu'ils prennent les réformateurs au sérieux, mais ils vont plus loin qu'eux. Luther voulait réformer l'Église, mais il ne voulait pas rompre totalement avec toutes les pratiques du catholicisme. Alain Joly a dû très bien vous l'expliquer. Certains réformateurs veulent aller plus loin. Notamment, ils disent, dans l'Écriture, puisque Luther avait dit tout chrétien doit avoir la liberté de lire les Écritures et de les interpréter, eux le prennent au mot et disent, dans notre compréhension, on ne voit pas le baptême enfant. On ne voit pas le baptême des enfants clairement. Et donc ils disent, maintenant il faut baptiser les adultes. Et alors, ce n'est pas juste une histoire de texte. Ils disent, pourquoi le baptême des adultes, c'est important ? Parce que eux lient le baptême avec la vie nouvelle. Pour eux, le baptême, c'est le signe de la vie nouvelle dans l'Esprit-Saint. Or, ils voient que dans la chrétienté de la Renaissance post-médiévale, tout le monde est baptisé, mais tout le monde ne vit pas la vie nouvelle. Donc ils se disent, il y a un problème. C'est donc qu'il faut que le baptême soit pas seulement un sacrement qu'on reçoit, mais aussi une profession de foi. Ils lient vraiment le baptême avec la profession de foi. Et donc, dans leur compréhension, ils disent, le bébé ne peut pas professer sa foi, c'est donc à l'homme adulte, à l'homme mûr, de le faire. Mais à l'époque, c'est révolutionnaire, parce que le baptême, c'est le signe de l'état civil. Les gens sont baptisés, ils sont notés à l'état civil, et c'est le signe d'être un bon citoyen. Et donc, ces gens-là, en refusant le baptême enfant, se mettent hors la loi. On va les appeler les anabaptistes, les rebaptiseurs, puisqu'ils rebaptisent les gens qui ont reçu le baptême enfant, et ils vont être rapidement persécutés par les réformateurs, par Luther et aussi Calvin. Certains vont prendre les armes et riposter. Ça va très mal se terminer dans la ville de Münster, en Allemagne, où ils vont essayer de créer une théocratie qui va être détruite. Et leurs successeurs, étant très persécutés, vont plutôt adopter une posture non violente et se replient dans des fermes où ils vont vivre un peu en autarcie. Ces anabaptistes vont donner l'église mennonite, qui donc, s'est répandue sur la vallée du Rhin, le territoire de l'imitation de Jésus-Christ. Et beaucoup sont allés ensuite émigrer aux États-Unis, ça a donné les Amish, notamment. Petite parenthèse, ma femme est pasteur mennonite. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais donc, cette première église évangélique, elle commence dès le début de la Réforme, avec cette intuition fondamentale que, voilà, ils partagent avec les autres réformateurs l'insistance sur la Bible, l'insistance sur la grâce de Jésus qui nous sauve. Mais déjà, il y a cette idée que la vie chrétienne, c'est un choix. La vie chrétienne, elle découle d'une conversion, et en signe de cette conversion, je me fais baptiser. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre. Il y avait un missionnaire évangélique très connu qui s'appelait Frère André, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a notamment fait passer énormément de Bibles en URSS. Et lui, il disait « Dieu n'a pas de petits-enfants ». Et en fait, derrière cette boutade, c'est vraiment la conviction évangélique très forte de dire « Chaque personne doit rencontrer le Christ personnellement et chaque personne doit accepter de le suivre et le manifester par le baptême et donc par un changement de vie ». À la suite donc, des Mennonites, il y aura d'autres familles évangéliques qui vont se créer, les baptistes notamment, qui sont une dissidence des calvinistes, les méthodistes, qui sont une dissidence des anglicans, les pentecôtistes, qui eux apparaissent un peu sortis de nulle part au début du XXe siècle, etc., etc. Ça, c'est les grands courants, mais à ce stade, je dois préciser qu'il n'y a pas une église évangélique, il y en a plusieurs dizaines de milliers. En fait, c'est une mouvance. C'est une mouvance qui, dès le début, dès le XVIe siècle, je vous l'ai expliqué, à partir du moment où on peut interpréter librement les Écritures, on prend des options théologiques différentes. La Bible seule est l'autorité de la foi, et donc on part dans une direction. Donc, si jamais vous avez des questions sur un peu les différences entre évangéliques, je serais ravi de poursuivre. Mais donc, si jamais je devais schématiser, il y a un peu deux tendances chez les évangéliques aujourd'hui. Il y a les piétistes et les pentecôtistes. Les piétistes, c'est ceux qui insistent beaucoup sur la prière personnelle, sur l'autorité des Écritures et sur une éthique de vie très forte. Ils sont souvent peu charismatiques, dans le sens, pas que leurs pasteurs sont peu charismatiques, mais qu'ils ne lèvent pas les mains. Voilà. Ils ne sont pas dans ce qu'on peut voir dans l'Église catholique. Voilà, des chants de louanges, de la musique, ça c'est pas vraiment leur domaine. Moi je me souviens que je suis allé dans une église baptiste à Paris 7e là, et on m'avait dit que c'était des évangéliques, donc tout de suite j'ai levé la main dans l'assemblée, et là on m'a dit non mais on fait pas ça ici. Et là j'étais chez des piétistes. Et puis il y a les pentecôtistes, donc eux qui se réclament de la Pentecôte, de cet instant où l'Esprit Saint descend sur les disciples et leur prodigue des dons. Et donc, eux insistent beaucoup sur l'action de l'Esprit-Saint, qui se manifeste par la louange, la musique, le chant en langue, les guérisons, les miracles. Voilà. Et finalement, la Bible, elle est toujours présente, mais ce n'est pas forcément le cœur de la foi. Le cœur de la foi, ça va plus être l'action de l'Esprit-Saint, la prière à l'Esprit-Saint. Et cette branche, la branche pentecôtiste, elle est en croissance exponentielle. Voilà. Jérémy, qui nous vient du Congo RDC, peut témoigner. La poussée fulgurante des pentecôtistes, là-bas on appelle ça les églises de réveil, ça c'est la branche du protestantisme évangélique qui est en forte augmentation. Et donc, vraiment pour terminer un peu cette brève présentation des évangéliques, mais qui est parcellaire, hein, vous n'hésitez pas à me poser des questions à la fin, les évangéliques sont en augmentation dans le monde entier. Ils étaient 150 millions en 1980, ils sont 660 millions aujourd'hui. Et en France, ils étaient 50 000 en 1945. Aujourd'hui, ils sont entre 700 000 et 1 million. Voilà. Donc c'est la communauté chrétienne qui augmente le plus. Donc, les évangéliques viennent du protestantisme. C'est une branche du protestantisme qui insiste tout particulièrement sur la grâce, la conversion, la vie nouvelle, qui a deux grandes tendances d'expression, les piétistes, les pentecôtistes. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter ? Qu'est-ce que nous, catholiques, on peut recevoir de ces gens qui, comme tous les protestants, ont beaucoup de différences avec nous ? Voilà, le culte n'est pas la messe, la prière des saints est absente, l'idée même d'une tradition dans l'Église est absente. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter ? Ben, je crois beaucoup de choses, et notamment le sens de l'accueil communautaire. Je raconte dans le livre que, après mes études à Sciences Po, donc j'étais jeune professionnel à Paris, le journalisme c'est compliqué de trouver du travail, après ceux qui veulent se lancer dedans, je les encourage, mais c'est compliqué de trouver du travail dans le journalisme, et donc voilà, j'étais précaire, j'étais un jeune professionnel voilà, un peu angoissé par l'avenir, et le dimanche matin j'allais à la messe, en bon catholique, j'allais à l'église Saint-Léon dans le 15e, qui est une paroisse très dynamique avec plein de monde. Mais à la fin de la messe, personne ne m'a jamais dit bonjour. Personne. Le prêtre, je lui serrais la pince, mais il était accaparé par plein de trucs. Et sinon, les paroissiens, personne ne m'a jamais salué. J'y suis allé plusieurs années de suite, personne ne m'a jamais salué. Alors que le soir même, j'allais à l'église baptiste, la fameuse église baptiste piétiste, là, dans le 7e arrondissement. Et là, j'étais tout de suite accueilli par des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'accueillaient, qui me disaient comment tu t'appelles, d'où tu viens, est-ce qu'on peut t'aider, moi c'est machin, est-ce que tu veux rester manger ? Parce qu'à la fin de chaque culte, souvent il y a un repas. Et ça, c'est très important pour souder la communauté. C'est ce que vous faites ici. C'est ce que vous faites ici. Et comme je vous l'ai dit, vous m'accueillez à votre table, à l'hôtel, mais aussi ici. Et c'est comme ça que la communauté se forme, se forge. Les évangéliques, ils ont un sens inné de l'accueil. Inné. Pour eux, finalement, nous, les catholiques, parfois, on peut dire les protestants sont très individualistes, c'est Dieu et moi, Jésus et moi, le reste, c'est pas grave, l'Église, c'est assez abstrait. Mais parfois, nous, à la messe, on est très individualistes. On va à la messe, on prend la communion, on s'en va. Pour eux, l'Église, c'est une famille, et on prend soin des membres de la famille, on accueille les gens, on les laisse pas tout seuls. Et c'est pas quelque chose de sectaire. C'est pas on te fait signer un truc tout de suite... donne-nous ton argent. Non, non, c'est pas du chiquet. Très vite, les gens vous appellent frère ou sœur. Et d'ailleurs, dans certaines églises, c'est même le frère machin, la sœur untel. C'est quelque chose qu'ils vivent vraiment. C'est quelque chose qu'ils vivent vraiment. Et ça, ça change tout. Alors, pendant plusieurs années, je dois dire que j'ai été un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que j'allais à la messe le matin parce que j'en avais besoin spirituellement et notamment pour recevoir l'Eucharistie. Mais le soir, je me précipitais chez les évangéliques. Parce que là, au moins, j'étais accueilli et aimé. Et l'église hôpital de campagne décrite par le pape François, c'est chez les évangéliques que je l'ai vu, à l'œuvre. Parce que les gens prennent de tes nouvelles, les gens t'invitent chez eux, les gens tout de suite te disent « Est-ce que tu as des sujets de prière ?» Voilà, nous, on dit « Intention de prière ». Eux, ils disent « Est-ce que tu as des sujets de prière ?» Et les gens disent « Bah voilà, en ce moment, ça va pas, en ce moment, j'ai ceci, en ce moment, j'ai cela. » Et nous, les catholiques, on dit « Bah, je vais prier pour toi. » Eux disent, bah, va prier là, maintenant. Et hop, on prie. C'est vraiment pas du chiquet. Donc le sens de l'accueil, le sens communautaire, il est hyper important. On parlait tout à l'heure à table des catholiques qui basculent du côté des évangéliques. Moi, j'ai été à deux doigts de le faire, mais je ne l'ai pas fait pour des raisons très, très théologiques. Rapidement, l'Eucharistie me manquait, voilà. Je ne dis pas qu'elle est absente des évangéliques. Comme tous les protestants, les évangéliques ont gardé des sacrements, le baptême et la scène, la Sainte Cène. Ce n'est pas absent de chez eux. Et j'ai même un ami évangélique qui m'a édifié dans ma foi, puisqu'il m'a dit que lui, il attendait toute la semaine avant de prendre la Sainte Cène. Moi, je me dis, est-ce que je peux dire ça de l'Eucharistie ? Bon, pas toujours. Donc, ce n'est pas absent de chez eux. Mais ça n'a pas la place centrale que nous accordons à l'Eucharistie. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça pour nourrir ma foi. Donc, je ne loupais pas la messe du dimanche matin. Mais, et je suis resté catholique pour ça, en fait. Pour l'Eucharistie et pour la confession. La capacité de... Enfin, la grâce immense que nous avons de pouvoir nous adresser à Dieu et d'être pardonné par l'intermédiaire du prêtre. Mais néanmoins, j'étais pas loin de basculer. Et quand vous demandez à des catholiques souvent pourquoi ils ont basculé chez les évangéliques, ils disent, au moins j'ai été accueilli. J'étais pas un anonyme. On a pris soin de moi, on m'a appelé. Un exemple que je ne cite pas dans le livre, mais qui m'avait marqué comme journaliste. J'avais passé plusieurs semaines à Dunkerque pour faire un reportage sur les migrants. Et puis, je m'étais mêlé à une église évangélique qui accueillait beaucoup de migrants et puis qui même accueillait des convertis de l'islam chez les migrants. Et j'ai participé à un groupe de prière dans un HLM de Dunkerque. Et en fait, les voisins du dessus et du dessous venaient, tout simplement, parce qu'ils avaient été invités. Et pas seulement invités à prier, en fait, les gens prenaient de leurs nouvelles, les gens venaient les visiter. Et notamment un gars du dessous, Marc, qui était seul, qui était célibataire, qui était un accidenté du travail, lourdement handicapé. Il disait, il n'y a que deux personnes qui viennent me voir la semaine, c'est les petits frères des pauvres et mes voisins du dessus. Voilà. Et ça, on peut le retrouver effectivement dans certaines sectes, hein, comme les témoins de Jéhovah ou les mormons, mais chez les évangéliques, il y a une authenticité, une simplicité qui ne trompe pas. Qui ne trompe pas, vraiment. Et ça, vraiment, le sens communautaire, il faut qu'on le trouve. Il faut qu'on le retrouve. C'est un peu ce que vous vivez, je pense, à l'échelle de votre aumônerie. Moi, à Sciences Po, j'étais président de l'aumônerie de Sciences Po, et à la fin, quand on quittait les études, c'était difficile de s'extraire de l'aumônerie, parce qu'en fait, c'était une belle communauté. C'était une communauté où on comptait les uns pour les autres, c'était une famille, c'était une petite église locale. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais du mal à basculer comme jeune professionnel dans la vie de paroisse, parce qu'on est bien dans nos aumôneries étudiantes. Bah, dites-vous que les églises évangéliques, souvent, c'est des petites aumôneries étudiantes. C'est des petites aumôneries étudiantes. Souvent, on a l'image de l'église évangélique méga church de 5000 personnes, ou de 10 000 personnes, comme ça existe dans le 9-3, hein, en Seine-Saint-Denis, je pourrais vous donner des noms. Mais la réalité de la plupart des églises évangéliques, c'est une petite église de 50, 100 personnes, où les gens peuvent se connaître et les gens peuvent compter les uns sur les autres. Voilà. D'ailleurs, en termes de local, cette aumônerie pourrait être une église évangélique. Il leur suffit de pas grand-chose de plus. Il leur faut un grand endroit pour faire le culte. Et après, comme il n'y a pas d'hôtel, de sacralité, de la présence, etc., et ben en fait, on change les chaises, on change les tables, et puis on mange sur place. Voilà. Et on fait l'étude biblique aussi. Donc, le sens communautaire, ça, c'est quelque chose que nous, catholiques, nous avons perdu et que nous devons retrouver. Ensuite, la conversion. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Tout évangélique est un converti. Voilà. C'est une foi personnelle, c'est pas seulement une foi héritée. Même un évangélique qui vient d'une famille évangélique, à un moment donné, il doit se positionner et donc recevoir le baptême. Voilà, c'est lié. Nous, catholiques, moi je suis convaincu du baptême enfant, de la validité du baptême enfant, qui d'ailleurs montre la gratuité de la grâce. Le bébé n'a pas choisi d'être baptisé, mais Dieu précède son désir en descendant sur lui. Néanmoins, nous, catholiques, nous devons, je pense, renouer avec notre conversion personnelle. Où j'en suis avec Dieu ? Où j'en suis ? Est-ce que je peux me remémorer ce qui m'a fait faire des pas vers Dieu ? Et finalement, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie d'être chrétien ? La conversion, c'est lié avec la cohérence de vie. Et les évangéliques, dans les années 90, ils répétaient un slogan qui venait des États-Unis, c'était « What would Jesus do ?» Qu'est-ce que Jésus ferait ? Alors, c'est un peu simpliste, mais en fait, très, 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 très concrètement, ils se répètent, même sans ce slogan, ils se disent « Mais comment je peux montrer Dieu dans ma vie ? Est-ce que ça, c'est conforme à ce que Dieu veut ? Est-ce que ça, c'est conforme à ce que Jésus veut ?» Et ça se voit de manière très concrète. Chez les évangéliques, alors là, on retrouve un peu un certain puritanisme protestant que moi je n'apprécie pas, mais chez les évangéliques, souvent, les gens ne fument pas, parce qu'il faut prendre soin de son corps, qui est un temple de l'Esprit-Saint. Comme on est en France, ils boivent, mais modérément. Quelque chose qui m'a frappé, même quand je suis arrivé dans ma belle famille, ils s'abstiennent de jurer. Ils s'abstiennent de jurer. Et en fait, c'est tout bête, mais ils ont réussi à me convertir là-dessus. Moi qui jurais beaucoup, c'est un truc tout simple, mais en fait, ils disent, on n'honore pas Dieu en faisant ça. Moi, je suis censé être un miroir de la grâce, et je n'honore pas Dieu en jurant. Donc, l'importance de la conversion. Et alors, petit défaut des évangéliques, hein, parfois, ils se disent, je me suis converti, puis c'est bon. Je suis sauvé, ils ont cette expression, j'ai l'assurance de mon salut. Voilà. Et donc, finalement, il n'y a plus trop d'efforts à faire. Non, nous on sait que la conversion c'est tous les jours. tous les jours, j'ai à me convertir. Mais cette mémoire du basculement, quand est-ce que j'ai basculé? Quand est-ce que Dieu est devenu le centre de ma vie et pas juste quelque chose d'accessoire? Ça, c'est quelque chose qu'il faut recevoir d'eux. Le zèle missionnaire, très important. Les évangéliques évangélisent. Je ne vous l'ai pas demandé, j'ai pas fait le jeu qui a vu des évangéliques déjà, machin. Mais je suis sûr qu'en étant à Paris, vous avez sans doute vu des gens dans la rue ou dans le métro prêcher ou distribuer l'évangile. Alors, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les mormons, mais oubliez ces gens. Moi, je parle de chrétiens, qui croient en la Sainte Trinité, contrairement aux deux autres, qui croient en la divinité de Jésus, contrairement aux autres, et qui ont ce devoir impérieux d'évangéliser. Tout ça, c'est profondément biblique, hein. Je vous cite juste un petit passage que j'ai identifié. Le zèle missionnaire. Voilà. C'est un pasteur qui m'a... Quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux me résumer pourquoi les évangéliques mettent autant de passion à évangéliser ? Et il me répond, ben parce que la Bible le dit. Et donc il cite le verset clé dans Romains 10, chapitre 10, versets 9 à 10. Je cite, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. En fait, chez les évangéliques, la mission n'est pas une option. En fait, elle découle directement de la conversion. J'ai été sauvé, c'est la meilleure nouvelle de ma vie, j'ai envie de la partager aux autres, j'ai envie que les autres soient sauvés. C'est un débordement du cœur, un peu comme disait le curé d'Ars. J'aime l'autre, je veux le meilleur pour lui, je veux qu'il soit sauvé, je veux qu'il connaisse Jésus. Alors, c'est vrai que pour la plupart des évangéliques, ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas sauvés. Et l'enfer est rempli à les entendre. L'Église catholique, dans sa sagesse, ne s'est jamais prononcée sur le fait que l'enfer était plein ou vide, ou avec peu de monde. Sans doute, il n'est pas vide, l'enfer. Mais l'Église catholique n'a jamais fait de comptabilité. Mais néanmoins, beaucoup d'évangéliques, eux, l'ont fait. Beaucoup d'évangéliques sont convaincus que si on ne connaît pas Jésus, on ne sera pas sauvé. Et donc, ça rend la mission d'autant plus urgente. Et là, en fonction de leur sensibilité, en fonction des églises, en fonction de là où ils sont, ils vont déployer énormément de créativité, énormément d'énergie à évangéliser. Ça passe par les médias, ça passe par YouTube, ça passe par la radio. Ils ont été précurseurs en fait dans tous les médias, les nouveaux médias. Ça passe par la prédication de rue. C'est peut-être le moins efficace, mais parfois vous en voyez comme ça qui prêchent dans la rue. Ça passe par la distribution de tracts, d'évangiles. Ça passe par le témoignage. Voilà, ça c'est une tactique souvent qu'ils utilisent. Ils font des animations de rue, du jonglage, etc. Donc les gens viennent, et puis du coup des gens viennent à côté en disant mais ça vous plaît, on est chrétien, voilà. moi j'ai fait de l'évangélisation de rue avec des évangéliques, toujours la même église baptiste, sur le parvis de la gare Montparnasse. J'étais pas forcément très convaincu, mais ils allaient voir les gens et ils disaient on voudrait faire un sondage sur la spiritualité des Français. Et donc du coup à la fin, bon, c'était un peu tricky, c'était un peu malhonnête, mais à la fin ils disaient est-ce que vous croyez en une vie après la mort, nanana. Puis à la fin c'était pour vous qui est Jésus, un fou ou celui qu'il croit être. Et les gens disaient bah ni l'un ni l'autre, c'est un gars super, mais je crois pas en lui, voilà. Et eux en fait ce qu'ils voulaient c'était provoquer la discussion et dire bah Jésus c'est celui qu'il prétend être, il est venu pour vous, il est venu pour vous sauver. Voilà, c'est pas toujours très adroit, et on pourra développer dans un peu les hypothèses que je fais pour la suite. Mais souvent ce sont les chrétiens qui entrent le plus en contact avec les périphéries. Et ça c'est quelque chose de très fort chez eux. Trop souvent l'Église catholique, malheureusement avec la déchristianisation, tend à ressembler à un club de bourgeois d'une certaine classe sociale, mais chez les évangéliques, vous ne trouvez pas ça. Au contraire, il y a une multiplicité de classes sociales, une multiplicité d'origines, y compris ethniques, parce que en fait, ils vont évangéliser, tout simplement. Ils vont évangéliser et ils ramènent des gens, ils amènent des gens à Christ, et ils les ramènent dans leurs églises. Ça, ce zèle, l'Église catholique est en train de le redécouvrir, parce qu'on est une minorité. Et ça fait longtemps que les papes successifs, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, nous disent, mais voilà, le temps est venu de la nouvelle évangélisation. Nous sommes une minorité dans l'Europe sécularisée. Il est temps maintenant de dire quelle est notre espérance et quelle est notre foi. Et vous connaissez sans doute le congrès à mission. Il y a beaucoup d'évangéliques d'ailleurs qui viennent au congrès à mission, parce qu'ils se reconnaissent dans cette expression missionnaire de la foi. Voilà, on est sur de bonnes bases, on est sur une bonne dynamique, mais il faut persévérer. Et là, les évangéliques ont des choses à nous apprendre. Enfin, les évangéliques ont à nous apprendre la familiarité qu'ils ont avec l'Écriture. Ma femme, ça fait depuis l'âge de 7 ans qu'elle lit la Bible tous les jours. Je ne dis pas ça parce qu'elle elle a des défauts, hein, comme nous tous, comme moi en particulier. Mais elle a reçu vraiment comme principe de son éducation de se référer à la parole de Dieu. Et tout comme nous, on pourrait, nous les catholiques, on pourrait se dire, ben voilà, y a quelque chose que tu portes, tu as besoin de te reconnecter avec Dieu, ben va adorer le Saint-Sacrement ou va prier le chapelet. Ou va mettre une bougie à l'église. Un orthodoxe, on pourra lui dire, bah, va prier devant une icône. L'évangélique, comme tout protestant, mais plus encore chez les évangéliques, peut-être que s'il faut vraiment marquer le trait, il faut dire que les évangéliques sont des hyper-protestants. Tout ce que les protestants portent en eux, c'est souligner, renforcer, accentuer même chez les évangéliques. Et donc, les évangéliques, dans le premier réflexe spirituel qu'ils vont avoir, c'est aller lire la Bible. Aller lire la Bible. Ils la connaissent très bien, ils la citent beaucoup. Ils ont une familiarité avec la Bible. Et la Bible, moi le premier, hein, souvent ça nous impressionne. C'est gros, on ne sait pas trop comment interpréter les choses. C'est sur notre commode et du coup on se dit, bon, est-ce que je la prends ? Non, elle n'est pas aujourd'hui. Chez les évangéliques, en fait, plus la Bible est abîmée, plus elle est surlignée, plus elle est cornée, en fait, mieux elle est. Parce que ça montre qu'on on la transporte avec nous tout le temps. Et on la lit, et on la mâchonne, et c'est un vrai chewing-gum, qu'on crache pas. Et ça, cette familiarité avec l'Écriture, elle doit nous inspirer. Alors évidemment, on n'a pas la même lecture. La plupart des évangéliques ont une lecture littéraliste, c'est-à-dire qu'ils non pas qu'ils croient que... Alors, certains croient effectivement que la Terre a été créée en 6 jours, top chrono. Mais la plupart, non. La plupart savent qu'en fait, qu'il y a quand même une interprétation, qu'il y a quand même des symboles, que la Bible, c'est une poésie. Mais la parole de Dieu, pour eux, c'est parole de vie. Et donc, là où certains chrétiens vont se perdre un peu dans des interprétations, dans hey, « est-ce que c'est vraiment ça ? On n'est pas sûr ?» Eux, l'intuition profonde, première, ça va être « oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a à me dire ? Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à me dire ?» Donc, effectivement, on n'a pas forcément la même interprétation de certains passages, mais il faut s'interroger. Est-ce qu'on lit la Bible ? À quelle fréquence ? On l'entend à la messe, c'est vrai, hein. D'ailleurs, moi je dis tout le temps aux évangéliques, la liturgie catholique, elle est profondément biblique. Souvent au culte, il y a un texte, voire il y a des versets. Il y a quelques versets, et puis le pasteur fait une homélie là-dessus. Nous, à la messe, il y a 3 paroles bibliques. C'est impressionnant, enfin 3 textes bibliques. Et pour autant, est-ce qu'on la lit au quotidien ? Voilà. C'est ça la grande différence. Et ça, cette familiarité avec l'Écriture, elle doit nous inspirer. Je passe à la troisième partie, et encore une fois, je suis vraiment ouvert à vos questions. J'ai sans doute fait l'impasse sur des choses, donc vraiment, n'hésitez pas à la fin de notre échange. Quelques hypothèses que je formule sur l'avenir et sur une fécondité mutuelle entre évangéliques et catholiques. En fait, les évangéliques, c'est votre avenir, c'est notre avenir. Les évangéliques vont devenir une donnée structurante dans le christianisme de demain, et en particulier en France. Je vous l'ai dit, les évangéliques augmentent de plus en plus, y compris en France. Et je crois que, ça c'est une conviction personnelle que j'ai, je crois que dans l'avenir, la France va continuer à être sécularisée, l'islam va continuer à augmenter, pour plein de raisons, et dans la communauté chrétienne, les évangéliques vont devenir les premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils évangélisent, ils sont de plein pied dans les périphéries. Nous, on parle des périphéries, eux, ils sont vraiment dedans. Ils ont une diversité sociale et culturelle que nous, on n'a pas toujours, même si le catholicisme est très varié, notamment en ville. Ils sont missionnaires, voilà. Ils sont missionnaires. Et nous, on a du mal à se réveiller. Et ils sont très à l'aise dans la modernité. C'est vrai que nous, l'Église catholique, elle est institutionnelle, hiérarchique. Ça prend du temps pour changer les coutumes, changer la culture. Il y a plein d'intermédiaires Et la messe est faite pour les initiés. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour la messe et tout le respect que j'ai pour les sacrements de l'initiation. Autant des premiers chrétiens, ceux qui étaient candidats pour le baptême, c'est progressivement qu'on leur faisait découvrir la liturgie. Et on leur expliquait à chaque étape. Aujourd'hui, on est dans une période d'analphabétisation spirituelle, analphabétisation religieuse. C'est pour ça que c'est super que vous fassiez une messe pour les curieux. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les paroisses. Parce que les gens ne savent pas ce qu'est la messe. Alors que le culte évangélique, ils peuvent mieux comprendre. Souvent, le culte évangélique, ça commence, il y a des chants, de la musique, ça parle à tout le monde. Il y a des premières prières, un mot d'accueil. Parfois, il y a la Sainte Cène. C'est intéressant, là-bas, la Sainte Cène est avant la prédication. Et ça montre un peu la différence entre le culte et la messe. Nous, la messe, l'Eucharistie, c'est le sommet. On monte vers l'Eucharistie. Chez eux, la Sainte Cène, on la vit, puis après, hop, on l'évacue, et puis on passe au plat de résistance, qui est la prédication. Voilà. Ça montre un peu la différence. Mais donc, il y a la Sainte Cène parfois, pas toujours. Il y a la lecture d'un texte ou d'un verset, il y a la prédication, qui peut durer jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai des amis évangéliques qui me disent ah c'est marrant toi la durée de la messe c'est la durée de nos prédications, voilà, et c'est vrai, mais en fait c'est très moderne comme manière de faire, parce que on est dans une société de l'oralité, on est dans une société de l'éloquence, on est dans une société où les gens ils acceptent de regarder d'écouter des podcasts, de regarder des youtubeurs, ils acceptent de suivre des TED Talks, et c'est moins facile pour eux de scotiner un gros bouquin, mais donc l'oralité, ça parle. Et souvent le pasteur va insister sur la vie concrète, le travail, l'amour, le sexe, l'articulation entre foi et travail, les côtés éthiques de notre foi. Ça parle aux gens. Donc ils sont de plein pied dans la modernité. Et puis, ils ont une fluidité institutionnelle plus forte. C'est aussi leur défaut. Mais donc, des pasteurs peuvent s'autoproclamer pasteurs, avoir une formation peu suivie, personne ne va vraiment leur interdire. Ils peuvent ouvrir une église. Il y a un petit côté business et marketing religieux. Voilà. Ça a beaucoup de défauts. Ça a beaucoup de défauts et je vais revenir dessus. Mais ça a une fluidité, ça a une facilité dans la société actuelle. Alors que nous, on a une institution très ancienne, vénérable, mais plus lourde à bouger. Pour ces raisons, les évangéliques, à mon avis, vont être la première communauté chrétienne dans le christianisme en France. Donc vous, dans les années qui vont venir, vous allez être directement confrontés à ces gens. Directement. Parfois dans vos familles, parfois dans vos lieux de travail, parfois de manière très positive, parce que vous serez sur votre lieu de travail, et en fait, vous serez le seul catholique, puis après, vous vous rendrez compte qu'il y a un collègue ou une collègue qui est chrétienne aussi, évangélique. Vous allez vous réjouir parce que vous allez pouvoir partager la foi et vous allez vous soutenir mutuellement quand ça ne va pas aller. Bon, malheureusement, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui dit « Ah, tu es catholique, non, il faut que tu deviennes évangélique parce que tu es idolâtre et tout. » Bon, voilà, mais ça, c'est une réalité que vous allez tous vivre. Et je vous souhaite de le vivre d'ailleurs parce que ça va être très intéressant pour vous. Moi, au quotidien, avec ma femme évangélique, ben, en fait, ça purifie ma foi. Et ça me force à me demander à chaque fois « Mais pourquoi je suis catholique? Pourquoi je crois ça ?» L'Église dit ça. Et en fait, nous, catholiques, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Bon, déjà, la déchristianisation va nous faire perdre quelques privilèges matériels auxquels on était trop attachés. On va redécouvrir une certaine simplicité évangélique, voilà, telle que vous vivez aujourd'hui. On va ressembler, en fait, de plus en plus aux évangéliques, dans le sens où on va retrouver des petites communautés, où on va devoir se serrer les coudes, où on va devoir donner de notre personne. Parce que dans les églises évangéliques, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Dès qu'on vient plusieurs fois au culte, on nous dit bah, « Est-ce que tu peux faire ça ? Tiens, il faut ranger ceci, cela. » D'ailleurs, une anecdote qui m'avait marqué. Au congrès mission de cette année, j'ai animé une table ronde où il y avait une évangélique, puis les autres, c'était des catholiques. La conférence se termine, c'était sur l'écologie. Les catholiques s'en vont, et celle qui fait des tas de chaises... C'était l'évangélique. Parce qu'en fait, elle est habituée dans son église à rendre service et elle sait que si on met pas la main à la pâte, ça va pas avancer, quoi. Donc, je suis un gros flemmard, je suis le premier à pas vouloir faire des efforts, mais en fait, dans l'église catholique en France, dans les années qui viennent, il va falloir tous en faire. Il va falloir tous passer un cran au-dessus, faire un pas de plus dans notre engagement chrétien personnel. Et ça, ça va nous rapprocher des évangéliques. Dans l'Église catholique, ne vont rester que les convaincus et les convertis. Mais c'est bien, parce qu'en fait, ça va purifier notre foi, et ça va nous donner un peps, une joie, un feu, qui vont nous donner la force pour évangéliser, et qui vont nous donner la force de vivre notre foi de manière intense. Ça va nous rapprocher des évangéliques aussi. Alors, vous me direz, mais peut-être qu'il faut les convertir, les évangéliques aussi, puisqu'ils veulent nous convertir. Vous savez sans doute qu'il y a un converti de l'évangélisme parmi nous, ici. Et il peut vous témoigner qu'effectivement, il y a des évangéliques qui deviennent catholiques. Et souvent, c'est lié à une découverte de la tradition, la grande tradition chrétienne. La grande tradition chrétienne qui ne commence pas avec Martin Luther, qui ne commence pas avec les prédicateurs américains des années 80, qui commence il y a 2000 ans. Je dis ça vraiment sans volonté de polémique, mais malheureusement, beaucoup d'évangéliques, ils tracent une ligne entre Saint Paul, l'apôtre Paul, et eux. Et entre les deux, il n'y a rien. Et en fait, c'est pas vrai. Eux-mêmes sont le fruit d'une histoire. Et souvent, la découverte de cette profondeur historique, de cette profondeur de la tradition chrétienne, ça interpelle les évangéliques et ça leur fait adopter un autre regard sur l'Église catholique. Je crois que si les évangéliques ont beaucoup de choses à nous apporter, nous avons beaucoup de choses à leur apporter. Notamment la tradition, la profondeur historique, pourquoi on est là, comment la théologie s'est constituée, pourquoi la liturgie. Un évangélique, souvent, il découvre la liturgie catholique, il se dit « mais c'est quoi ce truc ?» Et en lui expliquant, en fait, on peut le faire avancer. On peut leur apporter le silence, la force du silence. Dans la plupart des églises évangéliques, la place de la musique est très importante, et ça joue un grand rôle dans l'évangélisation. Je suis témoin que beaucoup de gens se sont convertis chez eux par les chants, par la musique, une musique qui prend au cœur, une liturgie en fait. Ils mettraient pas le nom comme ça, ils diraient pas que c'est une liturgie, mais en fait c'est une liturgie. Et donc la musique pour eux c'est très important, et puis quand on va chez les pentecôtistes, le silence est suspect, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire du bruit, plus on fait du bruit, plus l'Esprit Saint est là, c'est un peu ça. Et nous, catholiques, nous pouvons leur apporter le silence qui est une condition de l'intériorité. Pour que Dieu parle à notre cœur, il faut faire silence. Il faut se mettre dans une disposition. L'oraison, la lectio divina, toutes ces choses-là, on peut leur apporter. Par extension, les ordres monastiques, malheureusement, à la réforme, comme Moïse a liquidé plein de gens, les réformateurs ont liquidé les ordres monastiques. Ça, nous pouvons leur apporter, leur montrer la beauté de la vocation monastique, la beauté de ces gens entièrement donnés, et la beauté de la vie en communauté. Toujours cet héritage, voilà, parce que les ordres monastiques souvent sont très anciens, ça nous pouvons leur apporter. Et puis, bien sûr, nous pouvons leur apporter la beauté de nos sacrements, la beauté de l'Eucharistie. Je suis témoin là aussi que la Sainte Communion, elle est présente chez eux, mais elle est trop souvent mise de côté, souvent parfois parce qu'ils disent on ne veut pas faire comme les catholiques. Mais pourtant, nous savons que l'Eucharistie, ce n'est pas juste une habitude, ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste une habitude, c'est vraiment un canal de la grâce où Dieu se donne, où Jésus se donne, il se fait nourriture, et nous pouvons vraiment puiser nos forces avec la Sainte Communion. Avant de citer un passage sur la Sainte Communion que je vais vous partager, peut-être pour résumer cette hypothèse que je fais pour le futur, les évangéliques vont devenir de plus en plus nombreux, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Et en fait, il y aura du sublime et du grotesque chez eux, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourra redévelopper, mais il y a des églises évangéliques où il y a vraiment de la sainteté, où il y a des gens qui sont dévoués, donnés aux autres et donnés à Jésus, qui font beaucoup de bien autour d'elles. Et puis, il y a des églises où c'est le grand n'importe quoi, où il y a des gourous qui, souvent, insistent beaucoup sur l'argent et sur les miracles. Malheureusement, c'est cette tendance qui augmente de plus en plus avec les pentecôtistes. Tous ne sont pas déviants, mais c'est chez eux qu'on trouve les plus grands déviants. Tout comme dans le renouveau charismatique catholique, on a vu des déviants aussi. Mais donc, les années qui vont venir vont devoir nous apprendre à faire le tri entre le sublime et le grotesque, chez eux. Dans les premiers siècles du christianisme, on était dans une situation un peu pareille, c'est-à-dire qu'il y avait l'Église, mais il y avait les Ariens, il y avait les Donatistes, qui ressemblent un peu aux évangéliques par leur volonté radicale de se convertir. Il y avait plein de courants du christianisme un peu hétérodoxes, et ça a forcé l'Église en fait à préciser sa doctrine, ça a forcé l'Église à changer aussi certaines habitudes. Ben, je fais le pari que dans les années à venir, le compagnonnage avec les évangéliques va nous aider, nous, à purifier notre doctrine et nos pratiques, en leur apportant aussi ce que nous sommes. Je crois aussi que dans une société très sécularisée, face à l'islam et face au laïcisme fanatique, entre évangéliques et entre catholiques, on va beaucoup se comprendre et on va vivre en commun beaucoup de choses. Si dans une entreprise, vous serez forcé, je ne sais pas, d'arborer un drapeau arc-en-ciel, attention, hein, je ne dis pas, il n'y a aucune homophobie chez moi, et le soin, l'accueil et l'amour que nous devons aux personnes homosexuelles, je ne le confonds pas avec les slogans LGBT. Là, je parle vraiment de la politique, du conformisme social, et donc, si dans une entreprise, on va vous dire, bah voilà, il faut que tu arbores un drapeau LGBT et que vous, selon vos convictions, vous dites, bah, je ne me retrouve pas là-dedans, il y a de fortes chances que l'évangélique de service dira, oui, moi aussi, je ne me retrouve pas là-dedans. Voilà. Et il y a déjà des tas d'exemples très concrets qu'on voit, hein, à Conflans-Sainte-Honorine, pas très loin d'ici, dans la banlieue parisienne, il y a une employée de mairie qui a été renvoyée de son poste parce qu'elle était évangélique et elle avait dit à la pause café, je suis contre le mariage pour tous. Voilà, elle a été renvoyée. Cette cohérence de vie, cette radicalité dans l'évangile, ça, c'est vraiment une force des évangéliques, ça va nous faire du bien et ça va nous aider dans les combats à venir sur la liberté de conscience. Donc, ça va être un défi. Ça va être un défi, on pourra développer dans vos questions. Je pense que ça va nous confronter, ça va changer nos habitudes. Peut-être qu'il y aura certains d'entre nous qui vont quitter l'Église catholique, qui vont aller chez les évangéliques, comme ça se voit en Afrique, comme ça se voit en Amérique latine. Il ne faut pas désespérer. Il faut reconnaître, comme je l'ai dit dans ce livre, les bonnes choses qu'ils ont, et toujours dire patiemment, gentiment, avec le Saint-Esprit, avec la conviction que bah, la foi catholique, elle est belle, toujours leur présenter qui nous sommes, à eux et à nos contemporains. Et autant j'ai pas envie d'imiter les États-Unis sur beaucoup de choses, mais autant aux États-Unis, l'Église catholique est minoritaire, dans un océan de protestantisme, et ça rend pas l'Église catholique parfaite, mais ça la pousse à être exigeante, et ça la pousse dans sa communication, dans son apologétique, vous savez ce que c'est l'apologétique, présenter la foi, ça la pousse à toujours prendre conscience qu'elle n'est pas toute seule, c'est pas la seule église chrétienne, qu'il faut tenir compte des autres, et qu'il faut s'adresser aux autres aussi. Et je terminerai en rappelant que dans l'Angleterre de la fin du 19e, début 20e, il y a eu tout un mouvement de convertis, Newman, Chesterton, bon, Tolkien était un bénéficiaire de ses conversions parce que c'est sa mère qui s'est convertie. Eh bien, ça a donné des intelligences magnifiques qui venaient du protestantisme et qui se sont converties au catholicisme parce que le catholicisme avait réussi cette combinaison à être effectivement minoritaire, mais à formuler intelligemment la foi et à être missionnaire. Voilà. Et moi, c'est ce que je souhaite pour l'Église catholique en France dans le futur. Et je termine avec ce conseil de l'imitation de Jésus-Christ, ne pas négliger la Sainte Communion. Il faut puiser souvent à la source de la grâce et de la divine miséricorde, à la source de toute bonté, de toute pureté, afin de te guérir de tes passions et de tes vices, de te rendre plus vigilant et plus fort contre les tentations et les ruses du démon. Car celui-ci, connaissant la force de la Sainte Communion et la puissance du remède qui s'y trouve, qui trouve les fidèles, s'efforce en toute occasion et par tous les moyens de les en éloigner. Voilà. Puisons notre force dans la Sainte Communion et montrons à nos frères et sœurs protestants, évangéliques, qu'ils se privent de quelque chose en communiant rarement. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pierre. C'était merveilleux, mais il y a peut-être aussi pas mal de questions.
Merci vraiment pour votre conférence, je me suis reconnue dans plusieurs points. Mais je voudrais juste poser deux questions à titre un petit peu de difficulté, enfin d'être un peu polémique. La première, c'est que vous avez fait remarquer à très juste titre que souvent l'Église était un peu restreinte sociologiquement. Et donc c'est un peu des conditions historiques qui ont fait ça, qui font que bah, maintenant c'est un peu dur de bouger vers les périphéries pour des raisons historiques, sociologiques. Et donc je voudrais savoir comment les évangéliques sont arrivés en France, parce que c'est pas traditionnellement une religion française. Est-ce qu'il y a des missionnaires d'autres pays qui sont venus? Est-ce que c'est par quelques familles? Donc, voilà, ça c'est pour ma première question, pour s'inspirer un peu de ça. La deuxième, c'est que vous avez fait remarquer que les évangéliques étaient très ancrés dans la modernité, mais j'avais l'impression que c'était aussi une modernité technologique, c'est-à-dire que ils arrivent à bien gérer sur les réseaux sociaux, en termes d'institutions ils sont plus coulants, mais j'ai quand même l'impression que d'un point de vue dogmatique ils opposent une résistance qui peut être très problématique à la modernité que nous, à laquelle nous on est confrontés, c'est-à-dire pas forcément l'islam, mais un laïcisme qui n'est même pas forcément même rigoureux, mais juste indifférent, que ce soit sur la question de la grâce ou en fait dire Jésus sauve, c'est pas le premier truc là, que ce soit sur la question de la Bible, parce qu'en fait même si c'est nous qui sommes qui pouvons l'interpréter librement sans une institution, bah c'est comme si on en faisait une autorité un peu énorme. Et un peu pour toutes ces questions de puritanisme, je trouve que c'est pas la meilleure confrontation à la modernité.
Bien sûr. Ben, merci Marie, hein, c'est ça?
Oui.
Merci pour ces deux très très bonnes questions. Rapidement, comment ils sont arrivés en France? Alors, dès le XVIe siècle, en fait, il y en avait en France. Je parle des fameux Mennonites, qui en fait se sont répandus sur la vallée du Rhin. Et donc, très rapidement, bah, ils étaient présents en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté. Et donc ça, voilà, c'était les premiers évangéliques qui étaient en France depuis le XVIe siècle. Je vous ai dit au début que les évangéliques, c'était un courant doctrinal, pardon, qui insiste beaucoup sur la grâce, la Bible, la conversion, mais c'est aussi une sensibilité qu'on retrouve dans l'église protestante calviniste. Donc les Huguenots, ceux qui étaient là aussi depuis très longtemps, il y a des courants chez eux qui sont plus ou moins évangéliques. Et encore aujourd'hui dans l'église protestante unie qui rassemble les réformés et les luthériens, même si elle décline, ceux qui sont les plus motivés chez eux, ils se considèrent comme évangéliques, même s'ils sont calvinistes. Et puis ensuite au 18e, 19e siècle, vous avez eu d'autres mouvements souvent dissidents des réformés qui se sont constitués, notamment les darbistes, les méthodistes aussi. Et après, effectivement, au XIXe siècle, il y a eu pas mal de missionnaires anglais, écossais, qui sont venus en France, américains. Je me souviens que juste après la Commune de Paris, il y a un écossais qui s'appelle McCall, qui est venu à Belleville. Et justement, il avait l'intuition qu'il y avait la Commune de Paris, voilà, il s'était révolté pour des raisons économiques, politiques, et qu'au fond, ils avaient besoin de l'Évangile. Et il y a un fameux dialogue entre lui et un ouvrier sans doute communard qui lui dit bah, « Monsieur, personne n'est croyant ici, parce que l'Église catholique est vue comme le truc du pouvoir, mais si vous nous prêchez un évangile de liberté et de réalité, c'était les deux termes qu'il avait employés, il y aura beaucoup de gens pour vous écouter. » Et donc ça, tout de suite, il a créé une église évangélique dans l'Est parisien. Mais donc, c'est vrai qu'essentiellement, à cette présence ancienne, se sont greffées des missions étrangères. Et ensuite, c'est l'immigration qui a apporté des évangéliques. Quand vous voyez dans les églises évangéliques, dans les villes, c'est souvent moitié-moitié. Des personnes afro-antillaises, je dis ça sans les mélanger, les Antillais sont français depuis bien longtemps, mais voilà, des Français de l'Outre-mer vont être présents, beaucoup, et des personnes, des Français de plus récente date, d'origine de l'Afrique subsaharienne. Pour moi, c'est aussi ce qui explique que les évangéliques vont continuer de progresser. Parce que dans l'immigration, on résume souvent migrant égale musulman, mais en fait, migrant égale aussi beaucoup chrétien, notamment chez les Africains d'origine subsaharienne. Donc c'est ça en fait, plus les conversions, voilà, l'élan missionnaire qui fait que les évangéliques sont apparus en France. Et alors la modernité technologique, bah oui, moi je partage ton diagnostic. C'est souvent certains cathos conservateurs disent « Ah, les protestants, c'est le modernisme. Les protestants, c'est... » voilà. Mais en fait, c'est très superficiel. En tout cas, quand on regarde les évangéliques. Effectivement, ils ont une communication hyper moderne, communication technologique très forte. Ils n'ont pas peur de mettre une batterie dans l'église. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais en fait, quand on creuse, la vision doctrinale, la vision morale, c'est extrêmement strict. Ça a des bonnes choses. Je pense que du coup, les évangéliques sont assez contre-culturels, en fait. Et quand ils insistent sur voilà, la radicalité de la vie, le fait que ben, quand on est chrétien, il faut vraiment que ça se voit, des choses très bonnes comme la fidélité dans le mariage, la tempérance, toutes ces choses-là, c'est des choses très bonnes. Mais effectivement, chez eux, il y a une certaine radicalité, une certaine rigueur qui s'applique, et parfois il y a un peu une police des comportements. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes aussi qui quittent les églises évangéliques parce qu'elles n'en peuvent plus, quoi. On les flique, on les surveille, si elles viennent plus au culte, on dit quoi, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un souci. Voilà, et puis si... puis si, voilà, si elle faute au niveau sexuel, ça ne va pas du tout. Enfin, je trouve que dans le catholicisme, pour le coup, quoi qu'en disent les médias, quoi qu'en disent certains hommes politiques, il y a une compréhension, une miséricorde et un côté flex qui sont réels, quoi, par rapport à certaines églises évangéliques. Donc c'est un peu, ça fait partie des points d'interrogation que j'ai dans mes hypothèses de l'avenir, c'est-à-dire les évangéliques vont progresser. Mais finalement, est-ce qu'ils ne vont pas à un moment donné toucher un plafond de verre parce que cette rigueur et cette sévérité, elle n'est pas capable d'être transmise à beaucoup de gens, et peut-être qu'elle va dégoûter même beaucoup de gens. Après, il y a aussi autre chose, c'est que je parlais de l'immigration africaine. Souvent dans le métro, les prédicateurs qu'on voit, c'est des prédicateurs d'origine africaine. Et ils viennent avec leur culture, où en fait c'est très facile de parler de Dieu en Afrique. C'est sans doute une grâce que les Africains ont par rapport à nous, occidentaux sécularisés. Mais c'est clair que quand tu dis « Jésus vous aime, convertissez-vous », le gars dans le métro, il va pas du tout... Au contraire, il va se dire « Oh là, c'est une secte, oh là, c'est des fanatiques ». D'ailleurs, les évangéliques, aujourd'hui... Alors c'est marrant, nous les cathos, on redécouvre l'évangélisation de rue. Pendant le congrès à mission, on est invité à sortir dans la rue, à parler aux gens. Et de plus en plus d'évangéliques, pardon, reviennent sur l'évangélisation de rue. C'est-à-dire qu'ils disent « En fait, c'est pas tellement la meilleure manière de faire ». Ce qu'il faut, c'est le contexte relationnel. Ils disent beaucoup ça. Ils disent, en fait, il faut faire venir des gens dans nos communautés qui se sentent bien, qui ont envie de revenir. Voilà. Voilà. Alors, c'est stratégique, effectivement. Mais là-dessus, je fais une petite parenthèse, hein, mais j'ai donné la parole à un gars, Philippe Levallois, qui était chargé de l'œcuménisme à l'archidiocèse de Strasbourg, qui connaît très bien les évangéliques, et qui dit, effectivement, le souci que j'ai avec les évangéliques, disait-il, c'est que parfois c'est un peu trop stratégique. Voilà. Ils font parfois, paradoxalement, alors que c'est les champions de la grâce, les champions de l'Esprit Saint, paradoxalement, parfois, ils font trop confiance aux stratégies humaines. Et ça rejoint un peu le truc technologique. Parfois, ils ont une trop grande confiance dans la technologie. Or, on sait que la technologie, c'est pas juste un outil. Elle transporte une idéologie. Et ils l'ont vu pendant le confinement. Ils étaient champions pour faire des cultes en ligne, parce qu'ils avaient déjà le matos, beaucoup d'églises avaient déjà beaucoup d'églises avaient déjà des caméras, ils avaient les podcasts, ils avaient le YouTube, tout ça. Mais donc il y a beaucoup de gens après le confinement qui se sont dit « Oh, mais pourquoi j'irai encore au culte, puisque je peux le suivre de mon téléphone ?» Puis après ça devient « Oh, pourquoi j'irai au culte, pourvu que je peux écouter de la musique ?» Enfin voilà, et après, plus rien. Parfois ils font trop confiance dans la technologie et trop confiance dans les stratégies humaines. Et là, je pense que nous pouvons leur apporter un peu de nuance.
D'autres questions, Sacha?
Moi j'ai une question, mais je suis désolée, c'est pas le sujet, mais ça fait écho et on en a fait mention quand même. On n'a pas eu de séance sur ça. Mais alors, moi, à mon travail, justement, je suis la seule catholique pratiquante. J'ai rencontré une évangélique, Camille Cuno-Rantillaise, qui m'a beaucoup parlé de sa paroisse, justement, de la notion d'accueil, du fait qu'elle, quand elle a eu des soucis personnels, vraiment sa paroisse s'est occupée d'elle, etc. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est aussi la seule à m'avoir parlé en premier de foi, et vraiment elle a repéré que à une phrase que je suis chrétienne, on en a tout de suite beaucoup parlé, c'était vraiment très très bien, on est resté très proche. Et puis tous mes autres collègues sont musulmans et ou athées, et en fait le dialogue avec les musulmans dans ce contexte et dans mon travail, on est dans le travail social, donc quand même c'est un certain contingent de personnes très quand même ouvertes d'esprit, empathiques, etc. Se passe très bien aussi, et notamment par rapport à la laïcité, et enfin un peu, on se retrouve beaucoup sur les mêmes problématiques, donc c'est très important qu'eux puissent porter le voile au travail, que moi je puisse porter ma croix. On se respecte beaucoup sur ça justement, et on parle aussi très ouvertement, enfin bref, on a des dialogues très fructueux, et évidemment qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'œcuménisme possible, seulement plutôt du dialogue, là aussi, j'aimerais bien entendre vos pensées sur comment ça va progresser ça à l'avenir. Parce que ça aussi, on va forcément y être confronté. Et je trouve que justement, dans les milieux catholiques, on se confronte d'une manière extrêmement agressive à ça, alors que qu'il va falloir faire avec autrement, enfin, il me semble.
Avec l'islam, tu veux dire ?
Oui, à moins qu'on veuille une guerre civile. Mmh.
Bon, ça nécessiterait toute une conférence que je suis incapable de donner, mais ma petite expérience me fait dire que nous, les catholiques, on a une position délicate parce qu'en fait, on est l'ancienne église majoritaire. Et notre histoire, elle est profondément liée à celle de ce pays. Même si, en fait, le protestantisme fait partie de l'histoire de la France, avec Jean Calvin, avec plein de personnes, mais... Fondamentalement, l'histoire de la France est très marquée par le catholicisme. Nos paysages sont très marqués par le catholicisme. Notre culture est très marquée par le catholicisme, quoi que nos laïcs en disent. Et donc, nous, ça nous fait mal de voir tout ça s'effondrer. Et moi, le premier, hein, vraiment, j'en souffre. Et donc, en plus de ça, il y a l'islam qui se rajoute, avec tout ce qu'on entend dans le monde. Voilà. Et puis, les difficultés inhérentes à l'islam, sur le radicalisme, sur la place du Coran. Alors là, pour le coup, les évangéliques ne sont pas comme les musulmans. C'est-à-dire que autant ils lisent la Bible à fond, de manière littérale, et c'est l'autorité centrale pour eux, mais autant le Coran n'a pas le même statut que la Bible pour les chrétiens. En fait. Donc, y a une inquiétude qui est réelle, qui est profonde et qu'il faut entendre, qui est partagée chez les catholiques, ça je vous apprends rien, et qui est partagée par pas mal d'évangéliques, en fait, hein, notamment dans les banlieues. Dans les banlieues, en fait, en Seine-Saint-Denis, par exemple, souvent, dans les quartiers, bah, de manière écrasante musulmane. Donc il y a une certaine chape de plomb qui s'installe sur le ramadan, enfin tout le monde fait le ramadan, il y a toutes les boucheries qui sont halal, etc. Moi j'ai vécu en banlieue à Reims, et voilà, le ton, celui qui donne le ton, c'est l'islam, quoi. C'est la religion qui donne le ton. Mais souvent, la présence chrétienne, bah, c'est les évangéliques, avec une petite paroisse catho aussi, mais c'est souvent les évangéliques qui sont là, et les évangéliques sont confrontés de pleine face à ça. Et c'est peu documenté, mais il y a de plus en plus d'évangéliques qui quittent les banlieues parce qu'en fait ils disent bah, en fait, on ne veut pas vivre. Enfin, on sent que c'est menaçant, c'est dangereux, etc. Puis en fait, ils ont eux aussi leurs problèmes d'enfants qui se convertissent à l'islam, qui traînent dans la rue, qui se convertissent à l'islam. Pourquoi ? Parce que les musulmans sont très prosélytes, très missionnaires dans leur sens, et puis c'est vraiment communautaire. Alors là, c'est encore plus communautaire que les évangéliques, donc ça attire aussi. Donc ça, ces inquiétudes, elles sont perçues par les évangéliques. Mais là où les évangéliques ont des atouts que nous on a moins, ils sont récents. Voilà. Même si je vous ai dit qu'ils étaient là, certains étaient là depuis longtemps, ils sont récents, ils regardent la société avec un regard plus neuf, plus frais que nous. Nous, on la regarde avec le passé. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on a perdu depuis tout ce temps ? Moi, le premier. Les évangéliques, ils disent, quel est le potentiel ? Voilà. Quel est le potentiel ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, du coup, on retrouve la vision un peu entrepreneuriale, un peu business, de « Ah, il faut mettre une église à tel endroit et tout, machin. » Mais n'empêche qu'ils sont dans un autre esprit que nous. Nous, on est dans un esprit défensif, on est dans un esprit de repli. Eux, ils sont dans un esprit d'expansion, de mission, et avec les musulmans, de confrontation. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à faire des débats. Ça, c'était il y a quelques années sur YouTube. Il y avait des débats entre évangéliques et musulmans. Voilà. Et en fait, les musulmans sont très au courant de ça. Ils savent confusément que les évangéliques, ils veulent les convertir, comme eux veulent les convertir aussi. Et y a de la confrontation, il y a du débat. Et d'ailleurs, l'écrasante majorité des musulmans qui deviennent chrétiens, en fait, ils deviennent évangéliques. Parce que souvent, c'est les premiers qu'ils rencontrent. Parce que l'iconoclasme protestant, c'est-à-dire pas de statue, tout ça, ça ressemble au truc de la mosquée, et l'insistance sur la Bible, ça ressemble à l'insistance qu'ils ont sur le Coran, même si c'est pas le même statut. Et tout simplement parce que les évangéliques viennent les voir. Moi, j'ai interviewé un gars, il va frapper à la porte des mosquées, il dit « Est-ce que je peux vous parler de Jésus ?» Et le mieux, c'est que ça fonctionne. Parce qu'en fait, les musulmans, en fait, il faut... Bon, là, voilà, on rentre dans un tout autre sujet, mais... Les musulmans, ils se sentent plus ou moins marginalisés dans la société, par le laïcisme notamment, et donc quand ils rencontrent quelqu'un qui est croyant, ils se disent « Ah, génial !» Voilà, déjà. Et ensuite, ils ont une vision de Jésus qui n'est pas la nôtre. Pour eux, c'est un prophète et tout, mais qui n'est pas négatif. Donc en fait, ils disent « Ah ouais, ok, on peut parler de Jésus. » Et ce gars, bon, il est musulman converti, donc il a les codes et tout, mais lui, il va prêcher dans certaines mosquées. Parler de Jésus. Il dit, ah, moi, je suis chrétien, Jésus a changé ma vie, tac, tac, tac. Et le plus fort, c'est que ça marche, quoi. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de le faire ?
Et justement, c'est ce que... Enfin, ma question, c'était... Comment dire, j'ai beaucoup de mal à comprendre, justement, cette mentalité de l'islam est purement une menace. Alors, je comprends très bien pourquoi, mais à la fois, je trouve que... enfin, encore une fois, on doit forcément faire avec. Et en tant que chrétien, je trouve ça quand même très problématique d'être tout le temps sur un pied de guerre contre des gens qui sont déjà là, qui sont déjà nés dans cette culture et qui, bah, ça sert à rien de les taper avant même de leur avoir parlé.
Bah, je me souviens, le cardinal Barbarin m'avait dit une fois, moi j'ai pas peur des musulmans parce que je crois que Dieu les aime et que Jésus est mort pour eux. Et donc si Jésus est mort pour eux, il faut qu'ils le sachent. Il faut leur dire. Et je pense que là aussi, on a beaucoup de choses à apprendre. On est assez en retard sur ce sujet, mais les évangéliques n'ont pas peur d'évangéliser les musulmans. Et l'évangélisation, c'est pas je te tape avec la Bible, même si certains font. Mais l'évangélisation, c'est tout simplement l'amitié. Ça commence par l'amitié, le respect mutuel, le dialogue en vérité, pour le coup. Ça, c'est le relativisme, c'est pas le truc des évangéliques. Hein. Le fait que oh, on est tous pareils, non, ça, ils insistent bien sur nos différences et tout. Mais le dialogue en vérité et avec respect et charité, il faut y aller. Et on a développé cette culture de mission envers tout le monde, et notamment envers les musulmans. Vous connaissez sans doute Mehdi Djihadi, le comédien, qui était musulman, un peu salafiste même, qui est devenu évangélique, qui s'est converti là-bas, et ensuite qui est devenu catholique. Et moi, c'est un ami, et pour moi, c'est quelqu'un de prophétique, qui monte la voix. Il monte la voix parce qu'il est très respectueux de l'islam, mais il dit, j'ai beaucoup reçu dans l'islam, mais il est chrétien, il est catholique en plus, il a vu ce qu'il y avait de plus dans le catholicisme, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de profils comme lui, et il faut les suivre, il nous montre la voie. Vraiment, il nous montre la voie. Et faut pas avoir peur, enfin, je veux dire, Dieu est avec nous, enfin, l'Esprit Saint nous précède, on n'a pas à avoir peur. Si on a peur des musulmans, effectivement, on ne pourra pas les convertir. En fait, si on veut les convertir, il faut les aimer. C'est très compliqué. Aimer son prochain, c'est très, 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 très compliqué. C'est le plus difficile commandement. Pour moi, en tout cas. Donc, ah oui, un truc que je voulais dire. Dans l'église où ma femme est pasteur en formation, ils ont fait une initiative là pour le Ramadan qui commence hier aujourd'hui. Ils ont distribué un carnet où, en fait, sur les. Je crois que c'est 30 jours le Ramadan. En tout cas, sur chaque jour du Ramadan, il y a une prière pour les musulmans. Voilà. Je ne l'ai pas avec moi, ce carnet, mais tous les jours, c'est 30 jours. Vous tapez 30 jours sur. C'est ça, c'est 30 jours. Vous tapez 30 jours sur Internet, vous tombez là-dessus. En fait, c'est tous les jours une prière pour les musulmans. Voilà. Et nous, on peut faire tout à fait la même chose.